Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors Estivalitude, bon, c'est quand même relativement facile à prononcer. Alors que veut-ce dire ? J'essaie d'être un peu littéraire. Eh ben, on peut très bien éprouver de la quiétude, de la solitude, de l'altitude. Et je vous propose en gros de ressentir de l'estivalitude. Concrètement, c'est l'été et du coup, on se rencontre, on se croise, on se méli-mélo. Donc Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
Ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Zabou Breitman, vous êtes productrice, réalisatrice, actrice, metteur en scène et comme souvent, votre valise à roulettes déborde. Vous produisez une pièce intrigante, After the End, mise en scène par Antonin Chalon à Avignon, au Théâtre de la Manufacture du 5 au 25 juillet. Je dis intrigante parce qu'elle se passe pendant la fin du monde. Et puis, il y aura en septembre un film d'animation, Les Hirondelles de Kaboul, et une pièce, La Dame de chez Maxime, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Bonjour Zabou Breitman.
Bonjour Christophe Orseiller.
Boris Cyrulnik, vous êtes l'un de nos plus célèbres neuropsychiatres, on ne vous présente plus, et vous publiez chez Odile Jacob un livre inattendu, La nuit, j'écrirai des soleils, dans lequel vous dévidez des pelotes biographiques. Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Alors vous l'aurez saisi, Zabou Breitman décrit la fin du monde, et Boris Cyrulnik nous montre comment la surmonter, cette fin du monde. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller sur France Inter.
Alors commençons par la fin du monde bien sûr. Zabou Breitman, donc il y a cette pièce qui va se jouer à Avignon que vous produisez et qui s'appelle La fin du monde. Comment est né ce projet After the End, après la fin?
En fait, j'ai accueilli, on va dire, ce premier projet vraiment monté par ma compagnie, parce que je m'étais donné comme cahier des charges d'avoir une grande part pour les moins de 30 ans. Il est toujours très compliqué de commencer puisqu'on vous demande avant qu'est-ce que vous avez fait avant. Comme on n'a rien fait avant, c'est un serpent qui se prend la queue.
C'est pas facile de commencer.
C'est extrêmement compliqué de commencer par quelque chose. Donc l'idée était de mettre le pied à l'étrier à des moins de 30 pour que quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ils puissent avoir une réponse qui leur permette de travailler après.
Donc c'est mis en scène par un jeune, Antonin Chalon, et joué par des jeunes acteurs.
Par deux jeunes acteurs, Marie Petiot et Xavier Guelfi. La lumière, c'est Quentin Maudet qui sort du TNS. La scéno, c'est Salma Borde qui sort du TNS. C'est une bande de très jeunes. C'est des moins de 30.
C'est des vingtenaires.
Des late vingtenaires.
Et ça se passe vraiment pendant la fin du monde?
Alors, ne commencez pas avec des questions compliquées parce que je peux pas aller voir la pièce.
Oui. Allez voir la pièce, c'est une ambiguïté.
Ça s'appelle après la fin,
c'est encore plus délicat.
After the End, oui, c'est Denis Kelly qui est un auteur anglais absolument extrêmement intéressant en plus pour les Français. Toujours, c'est très intéressant parce qu'il écrit dans son écriture les chevauchements d'un personnage sur un autre dans les dialogues sont inscrits. Donc c'est écrit avec les chevauchements, donc de pensée, et c'est extrêmement intéressant à travailler parce que nous, Français, on a un peu de mal à faire ce genre de choses. C'est pas un exercice pour lequel on est très très doué.
Alors on va écouter tout de suite, c'est la meilleure manière d'en parler, la bande-annonce de la pièce.
C'est à ce moment-là que c'est arrivé.
Les immeubles étaient en ruine, alors j'étais plus sûr de rien et je panique. Il y avait du feu dans le nuage, à l'intérieur du nuage.
On s'est tous foutu de ta gueule. On s'est marré quand t'as acheté un appartement avec un abri dans le jardin.
Le monde est devenu dingue, putain.
Marc, ça paraissait juste un peu paranoïaque.
Paranoïaque ? Ils ont fait exploser une bombe nucléaire.
Maintenant que les gens sont morts, je sais pas ce que je ressens.
Pourquoi tu n'essaies pas ?
Parce que je déteste, putain.
Il faut qu'on s'occupe, qu'on fasse des trucs.
Pas ça.
Il faut qu'on fasse quelque chose.
Pas donjon et dragon, putain, tu joues à ça ?
Non, quand j'étais gamin.
Tu te déguises en lutin, genre ?
Non, putain, Louise.
Alors, voyez, à la fin du monde, et puis il y a le sentiment de fin du monde. Alors pour vous, Boris Cyrulnik, vous en parlez dans La nuit, j'écrirai les soleils, vous avez consacré un livre précédent à ça. La fin du monde est arrivée quand vous aviez 6 ans. Hein, je vous cite, « J'ai appris que j'étais juif à l'âge de 6 ans au petit matin de mon arrestation, le 10 janvier 1944, par la Gestapo française associée à l'armée allemande. » C'est énorme ça.
C'était pas la fin, c'était le commencement.
C'est ça.
C'est-à-dire que je suis né ce jour-là. Je suis né en tant que juif, condamné à mort et contraint à chercher à s'évader, à s'échapper. Donc ça donnait sens à toute ma vie. Et toute ma vie, je cherchais à comprendre ce qui m'était arrivé et à prendre la défense des gosses, aujourd'hui encore, à qui on dit « Regardez d'où il vient, il est fichu ». Cette phrase me parle, me blesse. Et ça a été l'orientation, le sens de toute ma vie.
Vous dites la fin du monde, c'est un commencement. Et dans votre pièce, Zabou, dans la pièce que vous produisez, la fin du monde n'est pas vraiment une fin. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la fin du monde, puisqu'on est enfermé dans un abri anti-atomique. Et alors ça me faisait penser à un épisode de la cinquième dimension que j'ai vu il y a quelques années, dans lequel deux personnes sont enfermées dans un abri anti-atomique en se demandant, mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde? C'est ça la question que vous posez?
Oh bah là, Denis Kelly, clairement, c'est pas ce qui l'intéresse, enfin ce dont il parle ne parle pas. Il y aurait eu une explosion terroriste à l'extérieur, mais ce qui se joue, c'est ce qui se joue à l'intérieur entre ce jeune homme et cette jeune fille. Et c'est pas du tout cette fin du monde. Elle est ailleurs. Elle est entre deux, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qu'il développe.
Parce que la question, si on se retrouve tous les deux dans un huis clos alors que le monde disparaît, qu'est-ce qu'on va faire?
Et qu'est-ce qui
est
vrai?
On joue à Donjons et Dragons.
Et qui terrorise l'autre? Quel est le bourreau? Quelle est la victime? C'est un peu ça la question. C'est à un moment donné, c'est plus vers là que ça tend, avec curieusement l'humour de Denis Kelly qui arrive à mettre des choses où les gens rient. Mais ça, c'est très anglo-saxon, le mélange des genres.
C'est une pièce drôle ou c'est une pièce tragique?
Mais pourquoi forcément?
C'est les deux, c'est ça.
Bah dans une même phrase ou dans une même journée, même dans une même dans un même moment de journée, on peut avoir les deux en même temps.
Il paraît que les gens qui pleurent en riant vont vraiment très mal. Boris Cyrulnik, c'est vrai?
Non, je pense que l'humour est une forme de défense contre l'angoisse de la mort. C'est-à-dire que effectivement, au moment, on peut très bien rire en pensant à la mort. Ça a déjà été fait. C'est même une contrainte. Les peuples écrasés, les peuples sous dictature ont un grand humour. Alors que les peuples libres sont mornes et les dictateurs eux-mêmes alors sont écrasants et mornes. Non, je pense qu'on peut rire de la mort.
Mais je faisais un distinguo, si je puis dire, entre l'état de fin du monde ou l'état de souffrance et puis la sensation qu'on peut éprouver. Par exemple, j'ai l'impression pour vous, Zabou, que le sentiment d'injustice, c'est un peu à la source de la création.
Pour moi, oui.
Oui, vous l'avez dit. Vous avez dit,
oui,
par exemple,
moi, oui.
Dans le monde du 26 mai, je ne cite pas source,
net,
vous
oui,
dites que l'échec de vos parents vous a construit.
Ah bah oui, forcément. C'est pas leur succès, oui. Le succès, je crois pas, j'en sais rien, hein, mais bon. J'ai l'impression que le succès m'a donné certaines bases, on va dire, peut-être, mais que c'est dans leur échec que j'ai trouvé ma force. Probablement, oui, bien sûr. Enfin, oui, c'est certain. Ma force et mon envie de fabriquer tout le temps.
Eh bien, Boris Cyrulnik, vous aussi, c'est dans cette souffrance terrible que vous avez trouvé un ressort incroyable.
Une contrainte.
Oui, une contrainte.
Un ressort. Non, ce que vient de dire Zabou me parle beaucoup, c'est que on est contraint à surmonter une épreuve. Et c'est ça qui est la création, qui est à la source de la création littéraire. Si nos enfants sont gavés, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à créer. Pour créer, il faut un manque. Donc Zabou a eu un manque, son auteur anglais a eu un manque, je ne sais pas lequel, et il pose une question métaphysique, c'est-à-dire que où irai-je après la mort? Avant ma naissance, j'étais encore dans mes parents, donc c'est la filiation. Mais après ma mort, où irai-je? Donc c'est une question métaphysique qu'on peut aborder en souriant.
Alors on parlait de la fin du monde ce matin, on va continuer à en parler un petit peu, je vous rassure. La voici.
Why does the sun keep on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world?
Because you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand. No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. When you said goodbye.
La voix grave et sensuelle de Julie London en 1963 avec un thème de circonstance, The End of the World, donc la fin du monde.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Alors, ce qui est très mystérieux, Zabou, c'est que je n'ai évidemment pas vu la pièce puisqu'elle ne se joue pas encore et qu'elle se jouera à Avignon pendant l'été. Mais cette chanson de Julie London qu'on vient d'entendre, elle est dans la pièce.
Elle est complètement dans la pièce. Elle raconte beaucoup de la pièce, d'ailleurs. Elle est absolument fondamentale. La fin du monde, c'est la fin de l'amour. Ouais.
Dans votre livre, Boris Cyrulnik, vous évoquez, en dévidant des pelotes biographiques, la question de la résilience, la question de surmonter les traumas. Il y a une façon de surmonter les traumas qui est assez surprenante. C'est parfois l'humour. Et j'aimerais qu'on écoute Zabou lors de la remise des Césars en 2014. Écoutez bien.
Je voulais vous parler d'une chose qui me... Enfin, il y a un malaise en ce moment qui agite notre belle démocratie française. Je voudrais vous parler un peu de la montée de l'antisémitisme. Non, je rigole. Oh, il vous a dit, oh non, Zabou, arrête. T'es pas sympa. On était bien, on s'amusait. Et puis toi, tu nous embêtes. Je le ferai plus.
Voilà, je le ferai plus à bout. Boris Cyrulnik, cette forme d'humour, ça correspond à quoi selon vous ?
C'est un mécanisme de défense contre l'angoisse. Je pense que Zabou est angoissé par ce phénomène qui réapparaît, qui n'a jamais été complètement éteint, mais qui a été enfoui, et maintenant il recommence à s'exprimer. Donc je pense que l'humour, d'abord c'est un mécanisme de protection individuelle, et ça permet aussi de ne pas indisposer les autres. En se défendant, je me défends, je suis en légitime défense, mais je ne vais pas vous angoisser, je ne vais pas vous embêter avec mes misères. Écoutez bien, je vais vous faire rire avec mes misères, et effectivement, ça permet de rester socialisé.
Et je vous rappelle au passage que l'antisémitisme existe, c'est aussi ça finalement qu'a fait Zabou dans ce texte très drôle.
Voilà.
Oui, c'est ça, et rappeler, et puis en plus c'était drôle de dire aux gens, oh non. Parce qu'ils pensent effectivement, non, elle ne va pas parler de ça, alors qu'on est dans une cérémonie un peu joyeuse.
Elle ne va pas nous plomber.
Et de dire ce qu'ils pensent à ce moment-là, c'est assez rigolo.
Alors, dans votre livre, Boris Cyrulnik, donc vous suivez des parcours de vie. En parallèle, on suit plusieurs parcours de vie. Et parmi ces personnages dont vous suivez la trame, il y en a un qui m'a intéressé, puisque Zabou est parmi nous, c'est Gérard Depardieu. On écoute Gérard Depardieu.
Je vote pas. Mais c'est de la merde.
Tous ?
Mais bien sûr. Si j'ai jamais voté, je vote une fois pour Mitterrand et une fois pour Sarkozy. Je n'entends que du mal de cet homme qui fait que du bien. La France est triste. Je préfère Poutine.
tant qu'à faire, parce que il y a une liberté et ils ne respectent pas les protocoles.
J'aime pas ces gens.
Et c'est aussi les médias qui sont des espèces de grandes putes.
Je n'aime pas trop les Français, d'ailleurs.
S'ils pouvaient faire un peu plus de culture, ces connards, là, tu les vois tous habillés pareil avec le même régime, t'as vraiment qu'une envie, c'est de leur filer un bâton dans le cul.
C'est un tout petit peu limite.
Pourquoi l'avez-vous mis dans votre livre, Gérard Depardieu, Boris Cyrulnik ?
Parce qu'il illustre que Gérard Depardieu n'a pas été un enfant en carence affective, ça a été un enfant en carence verbale. Il y avait beaucoup d'affection autour de lui, un père un peu alcoolique, mais qui était là, une mère qui parlait pas, mais qui était là, la Lilette, des frères, des sœurs, des copains un peu chapardeurs, un peu au bord de la délinquance, donc il n'a pas été en carence affective. Mais il n'y avait pas de mots. Son père lui disait « si tu comprends pas, souris ». C'est exactement
c'est très bien, ça.
Ce que je fais.
En radio, ça marche pas.
Mais si, quand je vais dans un pays étranger et que je comprends pas la langue, je souris à me faire mal aux joues. C'est-à-dire que, et ça permet de faire croire qu'on a compris alors qu'on n'a rien compris. Et ça a été la source du talent de Depardieu, c'est qu'il a été enchanté par les mots des autres. Et je lui ai demandé de faire la préface d'une de mes amies, une danseuse, Guylaine Tesmar, et il a fait une préface magnifique, Rimbaud. Et il dit « J'ai été aidé, j'ai été sauvé par les mots des autres. » Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire qu'en fait, lui n'avait pas de mots à sa disposition. C'était pas une carence affective, mais il avait aucune éducation, sauf celle de la rue, du chapardage, du coup de poing. Dès l'instant où il a trouvé les mots des autres, son monde s'est métamorphosé et c'est devenu un grand comédien.
Zabou Breitman, vous avez tourné avec Gérard Depardieu, alors au moins à vos débuts, dans Une femme ou deux de Daniel Vigne. Comment vous jugez les propos de Depardieu aujourd'hui, ces délires politiques où il va dans tous les sens?
Je sais pas tellement quoi répondre, en fait. Je sais pas quoi répondre. Je sais quand on pose une question, faut répondre. Je sais pas. Oui, mais je peux vous dire aussi que je ne sais pas quoi répondre.
Ah bah bien sûr.
Parce que à la fois, je suis toujours j'ai de l'affection, quoi.
Mais on peut avoir de l'affection pour quelqu'un dont on ne partage pas toutes les options.
Non, bah évidemment, mais je partage pas du tout. Mais c'est comme si, comment dire, c'est comme si ça n'avait pas plus d'importance que ça. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'était pas très grave, en fait.
Mais c'est un peu ça, Gérard Depardieu. On a l'impression qu'il peut dire un peu n'importe quoi. Et au fond, ça fait sourire. Et on se dit, ah bah tiens, maintenant il soutient Poutine. Peut-être que demain il soutiendra Kim Jong-un. Enfin, on ne sait jamais. Mais c'est comme une espèce de jeu qui ne l'engage pas.
C'est ça. Et je crois qu'il soutient Poutine, probablement parce que Poutine a dû lui parler gentiment. Et comme Depardieu aime tout le monde, il dit d'ailleurs, il le répète, « J'aime les hommes, j'adore les femmes, je vénère les chats. » Donc Poutine lui a parlé gentiment, paf, il devient russe. Mais il connaît rien à la politique de la Russie.
Alors dans votre
il va
livre,
peut-être devenir chat bientôt.
Il va peut-être devenir chat, la réincarnation d'un chat. Dans votre livre, Boris Cyrulnik, vous citez aussi alors longuement Jean Genet et Romain Gary. Alors en deux mots, pourquoi ces deux personnages, ces deux grands écrivains d'abord ?
Deux grands écrivains, sauf que l'un est merveilleux, chaleureux, Romain Gary, et l'autre aime la poubelle. C'est un écrivain merveilleux qui aime la poubelle, il l'écrit. Hein.
Il est fasciné par le côté sombre, on pourrait dire.
Oh, il est fasciné par la pourriture, il est fasciné par tout ce qui est moche, un peu comme Jean-Paul Sartre, hein, qui a un peu la même enfance. Hein. J'aime la nausée, j'aime ce qui dégouline. Oui. Pourquoi est-ce qu'il aime Jean Genet aime les vaincus, les persécutés? Parce que ça légitime leur propre violence. Puisque je suis persécuté, je peux tout me permettre. Je suis en légitime défense. Alors, il s'identifie aux Panthères Noires, pourquoi pas. Il s'identifie à la bande Abadère. Il s'identifie aux Palestiniens à l'époque où les Palestiniens ont été massacrés par la Jordanie, ce que tout le monde a oublié.
Septembre Noir.
Septembre Noir, un massacre incroyable. Et il éprouve pour ces jeunes hommes survivants d'un immense massacre, il éprouve un désir érotique, parce qu'ils sont persécutés, tout nus, souriants, armée, donc en légitime défense, autorisée à tuer. Et pour lui, c'est un érotisme intense.
Avec le risque de, finalement, je me mets à votre place, Boris Cyrulnik, si j'ose le faire, après ce que vous avez vécu, le risque de devenir extrémiste à votre tour, de répondre à l'extrémisme dont vous avez été la victime par un extrémisme.
C'est ce qu'on dit habituellement dans la culture, mais les enquêtes sociologiques montrent que c'est faux. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a été persécuté, généralement, il n'a qu'une idée en tête, c'est faire la paix. Ceux qui veulent se venger, ceux qui sont encore possédés par la haine, sont prisonniers du passé. C'est un équivalent de syndrome psychotraumatique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut s'en sortir, lorsqu'on veut sortir de sa poubelle, ce qui est mon cas, j'ai été dans une poubelle, la même que celle de Jean Genet, la poubelle de l'abandon, la poubelle des institutions où les éducateurs avaient pour consigne de ne pas nous parler, d'avoir avec nous que des relations de force, de violence. Quand moi, je rêvais de sortir de la poubelle, d'où l'intérêt des artistes, des écrivains, des philosophes, pour sortir de la poubelle. Jean Genet s'y est vautré, parce qu'il a aimé la fange, où il était bien, parce que la fange légitimait son amour de l'horreur et son amour de la violence.
Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter.
Ravi, cher ami, jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, mon magique. Des réponses à nos questions, si je suis largué, maintenant je sais, je pourrais poser ma main sur ton épaule, logique, organique, jamais je te tournerai le dos.
Connaîtrait entre mille, c'est Étienne Dao avec Malik Djoudi à tes côtés.
Vous avez dit.
Vous avez dit.
Ah non.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt?
Et je rassure aussi tous les membres de l'Académie qui auraient reçu un SMS où il serait question de cours de masturbation intellectuelle dans des groupes de films d'auteurs français. C'est absolument faux, c'est une rumeur. Alain Guiraudy et Abdelatif Kechiche ont prouvé que la masturbation dans le film d'auteur français n'était pas seulement intellectuelle.
Zabou Breitman, j'ai l'impression que vous avez parfois des doutes sur le cinéma français contemporain. Je me trompe ? Me trompe-je ?
Non, j'ai pas des... Non, j'ai pas des doutes. Non, je m'amuse à aller vers ce que pensent certains et puis voilà, ça m'amuse énormément. Non, c'est le jeu, c'est de jouer avec tous les codes, avec tous les trucs, c'est tellement amusant.
Boris Cyrulnik, vous allez beaucoup au cinéma ?
Pas assez.
Ouais.
J'adore le cinéma, je rêvais de faire l'école de cinéma, j'avais le choix, j'ai pas eu le courage. J'ai fait médecine par peur de la vie, parce que j'ai pas osé tenter l'aventure du cinéma, et que la médecine me paraissait le métier sécurisant. Donc voilà comment ça s'est passé, donc j'admire beaucoup les cinéastes, je les envie.
Quel est le cinéaste qui vous touche le plus ?
Louis Malle, clairement.
Ah ouais. Pourquoi ?
Parce qu'il a raconté mon enfance, parce que quand il a écrit « Adieu les enfants », j'ai un peu correspondu avec lui, et il a mis une part de son histoire aussi dans ce film. Donc je pense que tout ça, ça me touche, parce qu'il a transformé en œuvre d'art et en problème philosophique un phénomène qui s'est passé très souvent dans les années 40.
Ce qui vous est arrivé, Boris Cyrulnik, dans les années 50, après la guerre, à un moment donné, vous avez flirté avec le communisme.
Oui, je m'ai fait. C'était un flirt poussé.
Un flirt très poussé. Oui, oui. Vous avez été communiste, on va le dire.
On va dire comme
voilà,
ça.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Oui, oui. Et puis malheureusement, comme j'étais un bon militant, j'ai été envoyé en Roumanie au Festival de la Jeunesse. Et ce que j'ai vu ne correspondait pas tout à fait avec ce qu'on me racontait. Et quand je suis revenu, j'ai posé des questions sans agressivité. J'admirais nos chefs, comme on disait, et j'aurais voulu qu'ils m'expliquent. Et au lieu de m'expliquer, ils m'ont dit, si tu penses comme ça, t'as plus rien à faire avec nous. Donc ma carrière communiste, qui a commencé à 14 ans, s'est terminée à 16 ans.
Et vous, Zabou Breitman, bah, vous avez grandi dans une certaine forme de politisation, puisque vos parents étaient ultra-gauchistes, ils étaient Secours Rouge, tout ça, enfin plein de groupes.
Ouais. On était au SR, j'avais 10 ans, je me disais, oh là, pourquoi Maoïste, il fait froid Maoïste. Comme ça? Non, mon père était rose, il était vraiment...
Il était rose.
Il était dans la veine de mon grand-père.
C'est-à-dire social-démocrate, c'est ça que vous voulez
dire?
Oui,
tout à fait. Mon grand-père était un peu pote avec Léon Blum. Enfin, c'était cette partie-là du socialisme. Et on allait dans les réunions, il y avait tout plein de gens différents. Il y avait des situationnistes, il y avait des... Je comprenais rien des trotskistes-léninistes, il y en avait dans tous les sens. Il y avait une nana qui était montée sur la table en criant « Laissez-moi faire mon autocritique !» Et il y avait des situationnistes qui montraient leurs fesses en disant « Il y en a marre des patates au lard !»
Alors, c'est un beau slogan, ça.
Et donc, il y avait les anarchistes, tout ça. Et moi, je m'amusais beaucoup. Je trouvais ça rigolo. Je trouvais qu'il faisait vraiment froid l'hiver, quoi, dans les trucs. Et il faisait trop froid. Je me disais « Mais pourquoi on est obligé d'avoir froid ?»
Et maintenant que vous êtes grande, vous êtes encore
Non, j'ai beaucoup de mal avec le militantisme. Non, c'est pas mon truc, je crois. Je vais plus m'amuser à. Il n'y a pas tant d'humour que ça dans le militantisme. Hein.
Ce
rigole
qui est
pas beaucoup
dans les,
quand même. Hein.
Les militants, les militants d'extrême gauche des années 70-80, c'était des gens qui se prenaient très au sérieux et qui avaient tous des pseudonymes. Et dans votre livre, Boris Cyrulnik, vous parlez des pseudonymes. Vous dites que vous, par exemple, vous dites alors pendant la guerre, je vous comprends, alors vous étiez Jean Laborde, mais après la guerre, vous êtes devenu Boris Aurige. Pourquoi ?
Parce que je m'identifiais à tous les persécutés de la terre et que je voulais les sauver. Et j'avais lu, je sais pas où, que Aurige, il avait voulu sauver les esclaves. Et je m'étais dit, quand je serai grand, je sauverai les esclaves. Et je m'étais beaucoup identifié à l'esclavage noir parce que je n'osais pas dire « je ». Donc je pensais que les noirs esclavagés auraient pu être mes porte-parole. Donc en fait, le masque que j'avais choisi, le pseudo que j'avais choisi, parlait de moi.
Alors que votre véritable nom, vous le révélez dans le livre, Boris Cyrulnik, ça veut dire barbier.
Oui, j'ai été invité il n'y a pas longtemps en Pologne, à Cracov, par des universitaires. Et en arrivant, je vois l'opéra de Cracov avec des affiches blanches et rouges à la polonaise. Et je vois écrit partout Cyrulnik Sewilski, Cyrulnik Sewilski.
Vous dites c'est génial, quel accueil.
Alors je leur dis, écoutez, ce n'est que moi.
Vous
exagérez. Et à ce moment-là, les Polonais me disent, mais non, Cyrulnik Sewilski, ça veut dire le barbier de Séville. Donc j'ai été cruellement déçu.
Alors Zabou, vous avez dit avoir repris mon nom est la chose dont je suis la plus fière.
Ah oui, absolument. Et moi, ça veut dire, moi, c'est boulanger.
Ah, Breitman, voilà. Ça veut dire boulanger.
Bah, il faut
moi,
bien.
Je pensais que ça voulait dire l'homme
nom,
intelligent ou l'homme brillant, vous voyez.
Un peu. Alors, on s'est dit lumière, je sais pas quoi, mais non, c'est Breit, c'est boulangerie.
Barbier boulanger.
Ouais. Ben oui, mais parce que fallait bien donner des noms de métiers, comme beaucoup, hein, voilà, comme boulanger d'ailleurs. Mais aussi. Il n'y avait pas de nom propre, ils n'étaient pas comme ça, les noms.
Enfin, c'est un très beau nom, mais c'est vrai
j'adore.
Que j'imagine l'acte révolutionnaire qui consiste à reprendre son nom.
Ouais, j'ai repris mon nom, j'étais très fière, parce que mon père l'avait un peu lâché, on va dire, parce qu'il est parti au Canada après la guerre, après avoir récupéré son propre père au Lutetia, et...
Hôtel Lutetia, où l'hôtel les déportés
Lutetia, voilà,
retrouvaient leur famille
politique.
Après la guerre.
Voilà, mon grand-père avait été dénoncé par des mecs de l'ordre des médecins, enfin voilà. Enfin, à l'ordre des médecins, d'accord. Ils n'ont pas été très classe. À l'époque, mon père est parti au Canada, et alors, le nom lui pesait quand même. Hein. Il voulait aller soit en Australie, soit au Canada, en 50, puisqu'il faisait du cabaret, la Rose Rouge, tout ça. Et en 50, il est parti au Canada pendant 10 ans. Et en fait, il trouvait que c'était difficile. Alors, c'était drôle au Canada. Breitman était... c'était les anglophones. Les Ashkénazes étaient anglophones et les Séfarades étaient francophones. Alors, donc, on lui parlait directement en anglais. Il disait, mais non, je suis francophone. Et donc, tout ça fait que, sur son passeport, il avait pris De Ray. Mais ça se faisait beaucoup de prendre le nom de sa mère. Les acteurs, les artistes prenaient beaucoup le nom de famille de leur mère. Comme une, je sais pas, j'imagine comme une forme de liberté, quoi, aussi. Et puis, enfin, la société matriarcale, quand même, avait quelque chose de plus libre pour eux, j'imagine, j'en sais rien. Et je sais pas ce que vous en pensez.
Non, je pense que beaucoup d'écrivains ont fait ça aussi. Dans la promesse de l'aube, il réalise les désirs de sa mère et très souvent, il veut prendre le nom de sa mère pour la faire vivre.
Romain Gary.
Et pour faire vivre ses désirs. Et dans la pièce de théâtre dont vous parlez, il y a des relations d'emprise. Et cet écrivain magnifique était sous l'emprise de sa mère, qui était une personnalité éclatante, mais dont il en était amoureux et il a eu du mal à s'en détacher. Donc il a été sous son emprise. Il a eu pour mission sur Terre de réaliser les désirs de sa mère.
Alors vous devez faire une une analyse de mon papa absolument extraordinaire. Mon père est le cadet, donc le fameux cadet de 3 garçons. Et il signait les lettres qu'il envoyait à sa mère par ton fils préféré.
Ah, c'est joli. Le préféré. On veut toujours être le préféré.
Hein, ah bah lui, il a beaucoup. Ouais, sa mère, c'était très important.
Boris, vous avez une question pour Zabou. D'ailleurs, une question assez matelot. Hein. Alors, je vous écoute.
Oh la vache, je ne vais pas répondre.
J'ai une question pour Zabou.
Oui, vous voulez que je vous la dise ou vous vous souvenez?
Oui.
Comment expliquez-vous la soumission à des discours totalitaires, vous m'avez
magnifique,
dit?
Magnifique, c'est ça. Oui, j'avais
elle vous
oublié
plaît,
la question. Mais c'est la question.
Elle est de vous.
Ouais, ouais, elle est intéressante, ouais. Comment l'expliquer? Alors, je ne peux pas l'expliquer. Hein. Qu'est-ce que je vois de la soumission dans les... Pourquoi on ne réagit pas? C'est ça, par exemple, pourquoi, on le voit, tout à coup, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a plus de gens soumis que de gens qui soumettent. Comment ça se fait que, par exemple, 100 personnes vont pas casser la gueule à 3, quoi. Je pense que je sais pas l'expliquer d'une manière peut-être très juste ou très... Donc ça sera que du sentiment, de la sensation. Je crois qu'il y a un processus lent. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est comme l'anniversaire, quoi. C'est pas en un jour qu'on a passé un an. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait d'une manière sous-jacente, sourde, et qui se fait tout doucement, tout doucement, tout doucement, et de telle manière qu'au bout d'un moment, on n'est plus capable, comme, je sais pas, il y a des trucs comme ça en hypnose où on fait comme si on avait un carcan qui nous empêche, alors qu'en fait non, mais de croire tellement qu'on ne peut pas, fait qu'on ne peut pas.
il me semble.
Alors, voilà, c'est la réponse que j'espérais. C'était, je pensais à Kaboul en vous posant cette question.
Oui. On va en parler.
C'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qu'on commence à revoir actuellement sur la planète Terre, que des gens votent démocratiquement pour des dictateurs, qui leur racontent un discours d'une bêtise fantastique. Et quand Germaine Tillion est passée en Allemagne en 1929, elle a dit à ses amis allemands, elle leur a dit « se passent chez vous des phénomènes étranges ». L'Allemagne est un pays très cultivé, ils ont éclaté de rire en disant « mais regarde comme ces théories sont idiotes, comment veux-tu qu'elles prennent ?» Eh bien, ils avaient tort, plus une théorie est idiote, mieux elle prend.
Ah, voici un groupe envoûtant que j'adore, c'est Bon Iver, le projet de Justin Vernon. Voici Eima.
I waited outside. I took it remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Full time to call your mind. Hey, my. Wanted it to hold that. You're back and forth with that. I waited outside. I was talking on dope. I hope did it all go in a minute. Like the past that you know. I wanted all that mine, sugar. I wanted all mine. I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Full time, you talk your money up while it's living in a coal mine. Full time to call your mind. Hey, my, hey, my. So won't you know you mop it up? Well, you wanted it your whole life.
Driver, Heima, une programmation explosante fixe, voire érotique voilée, de Muriel Pérez.
Estivalitude sur France Inter.
Et nous poursuivons à 9h46 cette émission Estivalitude. Donc c'est le premier numéro aujourd'hui, donc il y a une sorte de stress. Mais pas du tout du côté des invités, hein, je dois dire. Alors Zabou, pendant le disque, vous n'avez pas cessé de dialoguer avec Boris Cyrulnik. J'aurais voulu vraiment qu'on laisse les micros allumés. Vous avez une question à poser à Boris qui concerne les animaux.
Oui, parce que sur la résilience et sur la capacité de se souvenir. On parle des éléphants. donc ont cette capacité de se souvenir parfois d'un cornac qui les aurait maltraités et qui peuvent les écraser contre un mur. Hein, ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais s'ils ont ce souvenir-là, ils n'ont pas, ils ne souffrent pas de ce souvenir. Enfin, je veux dire, c'est immédiat. C'est comment ça se passe? Est-ce que il n'y a pas la conscience de... Donc ça se passe comment, puisque là,
c'est des souvenirs qui se passent au corps à corps, c'est-à-dire que c'est une trace qui s'imprègne dans leur cerveau, mais c'est pas un souvenir comme nous on a des souvenirs, c'est-à-dire qu'on a une représentation de son passé. Boursier m'a maltraité, je l'aurai à la prochaine édition.
Bien sûr.
Voilà,
ça c'est un souvenir. Alors que la trace, c'est j'ai été maltraité, je n'ai pas de souvenir de ça, mais je sens que cet homme me veut du mal, ou parce qu'il m'a voulu du mal, c'est inscrit dans ma mémoire, et comme je suis plus gros que lui, je vais en profiter.
Et alors, je continue un tout petit peu la question, juste une chose.
Bien sûr.
Alors inversement.
J'allais boire un café, hein. Allez-y.
Pardon, mais inversement, non, mais c'est intéressant, mais inversement, est-ce qu'il y a aussi ça chez l'être humain alors ?
Oui, tout à fait. Il y a la trace et le souvenir.
Les deux, alors.
Les deux. La trace, c'est le souvenir dont on ne prendra jamais conscience, mais qui donne un goût du monde. Comme disait Jean Genet, pourquoi est-ce que j'ai un goût du monde aussi amer ? Et il éprouvait tout comme une amertume. Ça, c'est la trace. Le souvenir, c'est pas le retour du passé, c'est la représentation de son passé. C'est-à-dire, c'est le théâtre de soi. On se fait un cinéma de soi, au sens théâtral de soi, représentation au sens théâtral de soi. Je me représente mon histoire qui donne cohérence à ce que je sens du monde.
Alors c'est marrant parce que justement, je voulais vous faire entendre maintenant le son qui vous résume, puisque je vous ai demandé le son qui vous résume. Et pour vous, Zabou, le son qui vous résume, c'est un souvenir. Beaucoup de gens, ce son, ça nous résume tous, je dois dire, c'est évidemment le générique de Thierry Lafronde. C'est toute votre enfance, Thierry Lafronde,
Zabou. Oui, c'est mon père qui écrit à la machine.
Jean-Claude Deray.
Deray. Il avait pris à la fin Thierry Bretman, du coup, il était tellement fier. Et ma mère, Céline Léger, qui jouait Isabelle.
Oui.
Isabelle, qui avait été appelée Isabelle parce que leur petite fille, moi, s'appelait Isabelle. Et puis
Jean-Claude Rouault, bien sûr.
Oui, et puis c'était une période où c'était très 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 heureux. Et cette musique me faisait quelque chose de la musique de Loussier, qui est vraiment une très belle musique, me faisait quelque chose et me fait la même chose. Ça me fait plaisir. Ça m'émeut, ça me transporte, c'est quelque chose de large, quoi.
Et vous avez réussi à le partager, c'est-à-dire que moi qui n'avais aucun lien avec Thierry Lafronde, ça me faisait le même effet quand j'étais enfant et que je voyais ce générique apparaître à la télévision.
Oui, il est assez glorieux, on entend, la musique, elle est glorieuse, elle est joyeuse, elle emmène tout le monde, elle a quelque chose de très, c'est une musique de résistance, hein. Thierry Lafronde, c'est quand même résistant.
Oui,
c'est quand même assez rigolo que mon papa, il ait écrit ce truc-là.
Alors, pour vous, Boris Cyrulnik, le son qui vous résume, c'est assez particulier. Vous allez nous expliquer pourquoi. On écoute. C'est drôlement agréable. Hein. Je pourrais peut-être le laisser jusqu'à la fin de l'émission. Quel bonheur, Juliette Medeviel, de grâce, c'est vraiment merveilleux. C'est le cri des goélands.
Alors,
c'est bien des goélands, là, je me suis pas trompé.
Je suis pas sûr, ça c'est peut-être le cri d'alerte, mais c'est pas le vrai cri.
Vous arrivez à comprendre le langage goéland.
Il y a 40 signaux différents, vous savez, 40 signaux associés à des postures, ça fait un véritable langage. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait des carrières avec moins que ça, c'est-à-dire 40 signaux.
Des noms, on veut des noms.
Oh ben j'arrête, je pourrais pas m'arrêter là. Alors non, ça c'est un sketch que j'avais fait à Cambridge. C'était un de mes premiers cours et on devait parler de linguistique. Je proposais l'idée que la langue commence avant la parole, ce qui est une banalité aujourd'hui. Et il y avait un congrès très sérieux. Je m'étais arrangé avec les techniciens pour que j'avais enregistré des cris de goélands. Et au moment où je devais parler, les techniciens ont envoyé les cris des goélands comme vous venez de le faire.
Ah oui, d'accord.
Et le congrès entier, toute la salle a levé les yeux vers le plafond.
Ah oui, en cherchant les goélands. Et vous avez traduit ce que disaient les goélands?
Ah ben oui, bien sûr. Non, mais je parle goéland. Je parle couramment goéland.
Vous m'impressionnez de plus en plus, Maurice.
J'ai un peu l'accent marseillais, mais mais les goélands, pardon. Il y a les goélands anglais qui, eux, sont très poches.
Voilà, on découvre Boris Cyrulnik, l'homme qui parle goéland avec un accent marseillais. Je trouve que c'est quand même quelque chose que vous pourriez mettre sur votre carte de visite. Alors, Zabou, il y a aussi dans votre actualité pléthorique un film d'animation que vous avez co-réalisé avec Eléa Gobé-Mévelec qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Alors, ça parle notamment, alors c'est un peu plus sérieux, de l'islamisme. Écoutons la bande-annonce.
J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
Mais c'est merveilleux! Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous.
Attends, je vais t'aider.
Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop!
Chut, allez à la mosquée, écoutez le prêche, chez moi là-bas, chien. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Qu'est-ce que tu as ?
On m'a amené une nouvelle prisonnière.
Et alors ?
Et alors ? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet devant moi.
Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?
Et la voix qu'on vient d'entendre, Zabou Breitman, c'est votre père.
Ouais, il avait 93 ans. Je sentais qu'il dépérissait. Et c'est un acteur, hein. Le film a été fait d'une manière particulière puisque j'ai fait un truc qui se fait pas d'habitude. Les acteurs ont joué d'abord. Ont joué complètement. Ils ont joué d'abord. Donc il y avait des chevauchements, il y avait des sensations. J'aurais demandé aussi de faire des petites erreurs, enfin de tousser, de se racler la gorge. Mon père hésitait beaucoup parce qu'il était fatigué. Donc les animateurs ont animé les erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, on les gomme. C'est-à-dire que tout est impeccable et puis après on passe sa voix. Mais je trouve que ça ôte quelque chose d'intime, c'est les silences, les erreurs, les hésitations, la petite toux, le raclement de gorge, tout a été animé.
C'était trop propre pour vous. Vous aviez envie qu'il y ait la vérité de l'erreur.
Mais il n'y a pas que les mots, quoi. Il y a tout ce qui se passe dedans et tout ce qui se passe en dehors. Et pour remettre de l'intimité dans cette histoire où il fallait mettre de l'intimité, sinon c'est comme une histoire très lointaine. Oh, ça se passe loin, c'est chez les autres. Pour remettre l'intimité dans chacun et pour reparler de cette histoire terrible des talibans en 2000, 90, enfin là c'était en 98, je trouvais important, au milieu des dessins qui sont à l'aquarelle de Eléa, qui sont absolument magnifiques, quoi.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors, vous savez qu'il est déjà 9h55, ça va extrêmement vite, presque trop vite pour moi. Et c'est le moment où vous nous racontez votre plus incroyable souvenir de vacances, qui est la moindre des choses, vu qu'on est le 1er juillet. Alors, on commence peut-être par vous, Zabou.
Je vais aller vite. Ça a été les baleines.
Les
baleines de Tahiti, ouais, les baleines.
Comment ça, les baleines de Tahiti?
Ouais, fin août, début septembre, on y était pour aller jouer une pièce et voilà, on a nagé. J'ai eu un petit peu peur parce que c'est très gros et il y avait les baleineaux, c'est l'époque des baleineaux, voilà, ils mettent bas et donc en fait, comme ils ont pas une capacité respiratoire énorme, ils sont en apnée, ils arrivent pas à faire des grandes apnées, ils sont bébés, enfin ils sont bébés de 5 mètres, mais ils sont bébés et donc ils remontent tout le temps, très fréquemment et les mères sont là, les mères de 14 mètres quoi, et d'être nagé au-dessus et on m'avait dit oui, t'as ton maillot de bain qui vibre quand tu nages au-dessus, j'avais un peu rigoler. Et non, c'est vrai, à cause des infrasons, c'est tellement des fréquences.
Les baleines émettent des infrasons qui font vibrer les maillots de bain.
Oui.
Non, mais je prends des notes, moi, dans cette émission.
Non, mais, et puis d'accord. De voir le baleineau remonter, oui, oui. De voir la baleine sauter, c'est quelque chose de bouleversant, mais et qui arrache des larmes, immédiatement. Immédiatement, tout le monde a pleuré.
Nager avec les baleines.
On a pleuré en regardant la baleine sauter, les larmes ont jailli. C'était comme s'il y avait pas de réaction, c'était pas intellectualisé, quoi.
Alors, en deux mots, Boris Cyrulnik, le souvenir clé. Alors, des vacances.
C'était mon voyage en Roumanie.
Ah, le fameux voyage en Roumanie dont vous nous avez parlé tout à l'heure.
Voilà, c'était à l'occasion de vacances. J'avais 16
vacances
ans.
Vacances communistes.
Vacances communistes, j'avais 16 ans. Il fallait traverser l'Autriche et l'Allemagne qui étaient encore occupées, morcelées par l'armée américaine.
1954.
L'armée française. On a mis plusieurs jours pour arriver en Roumanie. Et là, liberté extraordinaire, magique. C'était la partie réussie du communisme, c'est-à-dire il y avait le théâtre chinois, il y avait l'opéra chinois qui était une merveille, il y avait des troupes dans la rue partout, il y avait une gaieté extraordinaire, mais ça a été mon premier acte aussi d'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire d'isolement. Si on veut vivre ensemble, le slogan nous réunit, mais arrête la pensée. Si on se met à penser, on risque de perdre ses amis et de se retrouver tout seul. C'était mon premier acte d'indépendance intellectuelle.
Merci beaucoup, Zabou Breitman et Boris Cyrulnik. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude et c'était important pour moi. Zabou Breitman, vous produisez le spectacle After Vienne, mis en scène par Antonin Chalon au Théâtre de la Manufacture à Avignon du 5 au 25 juillet. Le film d'animation Les Hirondelles de Kaboul sort le 4 septembre et vous mettez en scène La Dame de chez Maxime de Feydeau au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris à partir du 10 septembre. Et vous, Boris Cyrulnik, votre livre La Nuit, j'écrirai des Soleil est sorti au printemps chez Odile Jacob. Alors vous pouvez bien entendu réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et surtout, le plus important, la réalisation est signée Juliette Medevielle, avec pour la préparation Saad Merzak, Rebecca Donante, Claire Tesser, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Et demain, nous accueillerons un grand cinéaste, Olivier Assayas, et une figure de la musique électronique, Arnaud Robotini. Ah, mais je vois que... Sécurité, s'il vous plaît. Quelqu'un s'est introduit dans le studio. Bonjour, Laurent Delmas.
Ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi, Christophe. Quelle belle première vous avez faite. Bravo.
Alors, Laurent, qu'est-ce que vous nous annoncez pour aujourd'hui, pour votre première émission d'été?
Cine qui chante reçoit pour sa programmation musicale du jour Monia Chokri, qui prend la bonne route de Zabou Breitman, qui, après avoir été actrice, devient cinéaste avec La Femme de mon frère sur les écrans depuis mercredi dernier. Super film, dit Zabou, très bien. Et avec elle, on va écouter notamment Petula Clark, Orelsan, Élie Jacquenot, Chantal Goya, entre autres.
Eh ben, j'ai hâte de vous voir tous les jours.